RFJ Info.
Le journal de Nancy Chapuis.
3 jours de deuil national, l'Argentine pleure son héros depuis hier. Diego Maradona n'est plus, emporté par une crise cardiaque à l'âge de 60 ans. Plus cher, moins résistant mais utile, le gouvernement jurassien précise ses positions dans l'utilisation de revêtements phonoabsorbants sur certaines routes. Courgenay pourrait être raccordé au chauffage à distance au bois de Porrentruy. Le thermoréseau devrait s'étendre jusqu'à la commune voisine ces prochaines années. Une fois que le brouillard aura quitté les dernières cuvettes, le soleil pourra largement briller en toute région. Mais attention, le mercure a du mal de prendre des couleurs. Il était l'une des plus grandes légendes du football. Diego Maradona est mort hier alors qu'il venait de fêter ses 60 ans. Il est décédé d'une crise cardiaque dans la banlieue de Buenos Aires. Le champion du monde 1986 avait été opéré au début du mois de novembre d'un hématome à la tête et il se trouvait en convalescence. La nouvelle a suscité une onde de choc dans toute l'Argentine, comme l'explique notre correspondante sur place, Caroline Vic, que nous avons contactée peu après l'annonce du décès de Diego Maradona.
La nouvelle a ému et choqué toute l'Argentine. À la télévision, les journalistes ont annoncé la nouvelle de la mort de Diego Maradona. Perplexe, les larmes aux yeux, la voix cassée par les sanglots. Des pleurs qu'on retrouve sur tous les visages, dans les rues de Buenos Aires et dans tout le pays, et dans les messages sur les réseaux sociaux. La tristesse se mêle à l'admiration envers ce génie, ce rebelle qui aura vécu une vie très intense, de grande gloire et d'énormes souffrances aussi. L'alcoolisme, la drogue, une vie privée agitée. Un homme passionné, très populaire, excessivement proche des gens, aux convictions politiques fortes. On se souvient qu'il était l'ami personnel de Fidel Castro, le Cubain. Le président Alberto Fernandez a déjà décrété 3 jours de deuil national. Déjà de son vivant, Diego Armando Maradona, El Diez, le 10, était une légende, un véritable dieu. Aujourd'hui, on s'attend à des déplacements massifs jusqu'à sa maison et peut-être même dans quelques jours des funérailles nationales.
Et on revient sur cet événement à 7h20 avec Nestor Clausen. L'ancien joueur a été sacré à ses côtés champion du monde en 1986. Sur le tapis vert, l'UEFA a donné hier la victoire à la Suisse 3-0 face à l'Ukraine, puisque le match avait été annulé il y a 10 jours après la découverte de plusieurs cas positifs au Covid-19 dans l'équipe ukrainienne. Une décision qui permet à la Nati de se maintenir en Liga de la Ligue des Nations. Sur les terrains de football, 2 matchs de Super League se sont disputés hier. Sion a pris le meilleur sur Servette 2-0. Bâle l'a emporté face à Lausanne Sport 2-1. Les restaurants connaissent désormais la date de réouverture dans le Jura ainsi que dans 4 autres cantons romands. Les établissements pourront à nouveau accueillir les clients dès le 10 décembre, selon l'annonce faite hier. Toujours dans un cadre strict sanitaire, tablé de 4 personnes, traçage, port du masque et fermeture à 23h. Le canton du Jura continuera de privilégier la pose de revêtements phonoabsorbants dans les zones bâties touchées par des problèmes de bruit routier. Le gouvernement répond ainsi à une question écrite de la députée UDC Sandra Juira. L'élu agrarienne s'interroge sur la durée de vie d'un tel revêtement qui se déformerait rapidement et qui serait plus vulnérable que les autres aux atteintes mécaniques. Les précisions de Raphaël Chalverin.
Le gouvernement jurassien ne va pas changer de cap en matière de revêtements routiers. Il indique que la pose de phonoabsorbants est en adéquation avec la loi sur la protection de l'environnement qui exige de privilégier les mesures de réduction du bruit à la source. L'État admet néanmoins que ce revêtement, plus poreux et moins dur, a une durée de vie moins grande que les asphaltes conventionnels, soit 10 ans contre 15. Selon le canton, les hautes performances d'absorption du bruit ont été obtenues au détriment de la durabilité. Le phonoabsorbant est par ailleurs 2 fois plus cher, même si l'écart de prix tend à baisser. Si le gouvernement entend continuer de privilégier ce revêtement dans les zones sensibles au bruit, il indique qu'il n'est pour l'heure pas systématiquement utilisé dans le cas des réfections de routes en localité.
Un nouvel architecte communal à Delémont. Les autorités ont annoncé hier la nomination de Olivier Schmann, qui entrera en fonction le 1er février. Il remplacera Pascal Mazzarini. Le thermoréseau Porrentruy compte étendre encore son réseau. Le chauffage à distance au bois a fêté cet été son 500e raccordement, mais compte bien ne pas s'arrêter là. Depuis que les conduites sont parvenues à alimenter la zone du Voybeu pour la patinoire et la piscine, un développement à Courgenay est envisagé. Ce point sera présenté demain soir lors de l'Assemblée Générale. Mais que la nouvelle centrale se situe le long de la route d'Ale, il n'est pas prévu de raccorder ce village. Manuel Godina, directeur de thermoréseau Porrentruy.
Il faut savoir que du côté d'Ale, les grands consommateurs ne sont pas centralisés dans un seul et unique endroit. On a une zone industrielle qui est plutôt en direction de Miécourt, on a une zone de locatif plutôt côté Porrentruy. En fait, dans le développement d'un chauffage à distance, il faut toujours respecter un certain nombre d'énergie, de chaleur à vendre par rapport aux mètres de conduite qui sont installés. Et ce ratio n'était pas favorable à Ale. Il n'empêche qu'en fonction du développement que nous pourrions connaître sur Courgenay, la zone industrielle se rapproche aussi fortement de la commune d'Halle. Et pourquoi pas, à moyen terme, à 10 ou 15 ans, faire une boucle complète Porrentruy-Courgenay-Halle et revenir ensuite à Porrentruy. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira.
Et en quelques chiffres, le thermoréseau Porrentruy substitue l'équivalent de 4,8 millions de litres de mazout par année et produit 9 millions de kilowattheures d'électricité, soit la consommation de 2500 ménages. La grève de femmes milite pour une redéfinition du viol. Hier, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, les différents mouvements, dont celui de la région, ont lancé leur campagne qui porte cette année sur la qualification juridique du viol, trop restrictive en Suisse selon ces associations. Un enjeu important à l'heure où le pays s'apprête à reviser son code pénal. Le Conseil fédéral veut intensifier la lutte contre la corruption au sein de l'administration. Il a publié hier sa stratégie pour les années 2021-2024. Ce document est une première et il devrait, selon le gouvernement, servir d'exemple pour renforcer les mesures à tous les échelons. Coopération internationale, évaluation des risques et adaptation de l'arsenal judiciaire font partie des thèmes abordés. Pour les militants anticorruption, c'est un premier pas important, mais il pointe déjà du doigt certaines lacunes. Martine Hilti, directeur de Transparency International.
La stratégie ne prévoit pas de mesures dans le domaine du lobbying. Or, de fortes pressions sont déjà exercées sur le Conseil fédéral et de l'administration lors de la phase de la préparation des lois, et ces pratiques de lobbying ne sont pratiquement pas réglementées chez nous. Il est ainsi urgent de prendre des mesures, et c'est ce que j'aurais expecté du Conseil fédéral, de relever l'empreinte législative, c'est-à-dire de publier les principales influences exercées par les lobbyistes.
Martin Hilti déplore également le manque d'indépendance du groupe de travail chargé de la lutte contre la corruption. Le Conseil fédéral évaluera sa stratégie dans 4 ans. Bien que Donald Trump semble décidé à passer la main, le président américain continue de crier à l'imposture. Sans preuve, le chef d'État déchu affirme toujours que le scrutin est entaché de fraude. Toutefois, un à un, les États clés certifient leurs résultats et les recours en justice de l'équipe Trump échouent, faute de fondement. Le nouvel élu Joe Biden a averti cette nuit que les Américains n'accepteraient pas que sa victoire la présidentielle américaine ne soit pas respectée.
Merci Nancy, ça va l'anglais?
Ouais. J'adore.
J'adore au petit matin.
Avec, ouais. Avec un petit accent de otage. Ouais.
Mais arrête.
Vous avez la langue qui s'est enroulée.
Non, alors je ne savais pas si international, je mettais en français, en anglais et puis transparent.
Oh, non, mais on sent l'effort.
Ça allait très bien. Et vous savez que dans 2 semaines, donc, les restaurants vont rouvrir leurs portes dans le Jura. Vers 7h40, on entendra la réaction d'un restaurateur, Olivier Schafter, à Delémont. Et à 7h50, on va revenir sur la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. On va aller de la blague douteuse à la violence physique pour le coup de gueule du jour.
Et là, il n'y a pas de blague, hein. C'est toujours du brouillard. En pleine, le matin, avec une persistance jusqu'à 700 à 800 mètres d'altitude, saison oblige. Sinon, la journée sera belle et ensoleillée avec une excellente visibilité sur les franches montagnes. Et puis également du côté de la Haute-Ajoie, parce qu'on a une auditrice qui nous a appelé, Marie, qui nous a dit que tous les matins, cette semaine, il n'y avait pas de brouillard du côté de Danvant. Alors on est bien content pour eux, par contre attention sur la route hein, parce que ça gèle, il fait jusqu'à moins 3, moins 4 degrés ce matin en pleine, 3 degrés du côté de Seignelay-Légier. Au meilleur de la journée, le mercure devrait atteindre des maxima à 7 degrés en pleine et 9 dans les Franches-Montagnes.